Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « La victoire finale ». Nous arrivons à l'étude numéro 17 et le titre c'est « Dieu cherche un homme ». Et comme il est constaté qu'il y a dans les églises plus de femmes que d'hommes, nous pouvons ajouter que Dieu cherche également une femme. Certaines phrases qui sont très importantes, je vais vous les répéter deux fois. Vous comprendrez que ça a évidemment une raison. Le psaume 110, c'est un psaume messianique, c'est-à-dire prophétique. Il y a des psaumes, contrairement à ce que certains pensent, qui sont aussi importants pour la fin des temps que Daniel, Ézéchiel, Apocalypse, etc. Donc le psaume 110, j'ai dit que c'est un psaume messianique, c'est-à-dire il est donc prophétique. Il annonce les choses de la fin. Il nous parle des temps que nous vivons actuellement. Et il nous parle du jour merveilleux où Jésus régnera avec puissance sur les nations. Mes chers amis, bientôt il y aura un changement d'autorité. Les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ, selon Apocalypse chapitre 11, verset 15. Quand ce transfert prendra-t-il effet? Eh bien, ce sera au retour du Seigneur. C'est à ce moment-là que la pleine manifestation visible de la défaite de l'ennemi aura lieu, quoique le transfert aura déjà commencé petit à petit depuis un certain temps. Écoutez un peu ce que Dieu dit dans le psaume 110, versets 1 à 3. Vous allez être étonnés. Yahvé l'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel enverra de Sion la verge de ta force. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. » Psaume 110, versets 1 à 3. Il y a là des vérités importantes pour l'Église. D'abord, remarquons que le Seigneur parle à mon Seigneur. Ça a l'air presque incompréhensible pour certains, mais attendez. C'est Dieu le Père, Yahvé l'Éternel, qui parle à son Fils bien-aimé Jésus-Christ et lui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que » et ceci est très important « jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ceci montre clairement que les ennemis de Christ seront vaincus alors qu'il est encore assis à la droite du Père. Quand Jésus viendra pour régner sur la terre, il devra quitter cette place qu'il occupe actuellement. Donc les ennemis de Christ doivent être abaissés, ils doivent être vaincus avant qu'ils ne se lèvent pour venir sur terre. Qui sont les ennemis de Christ? Eh bien, ce sont les mêmes que ceux identifiés par l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Il est dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ténèbres, contre la puissance spirituelle, cette puissance spirituelle qu'on peut nommer la méchanceté absolue, qui se trouve dans les lieux célestes. En effet, les ennemis de Christ ne sont pas seulement des méchants hommes, mais ce sont des forces démoniaques qui dominent ces hommes et qui règnent aussi en grande partie sur la terre par le moyen de ces hommes. Mais notre combat, il n'est pas seulement contre la piteuse chair, il est contre des esprits malins et méchants qui ambitionnent une pleine domination sur la terre. Les principes, on peut dire, maléfiques des ténèbres, ce sont carrément des princes dont les territoires sont appelés des principautés. Alors, on peut dire, ils ont usurpé les trônes d'autorité qui ont été créés par Dieu comme faisant partie de la structure spirituelle du monde, ils ont été apparemment créés pour que Adam et sa race puissent régner d'après ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries ou les principautés ou encore les autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, le premier Adam a perdu toute autorité, y compris ses droits sur les trônes invisibles. Et ceux-ci sont tombés entre les mains puissantes de qui ? De Satan. D'où il règne maintenant sur les nations au moyen de ses princes de ténèbres. Néanmoins, le dernier Adam nous a ouvert le chemin pour les reprendre par l'intercession. Quiconque règne sur ses trônes règne également sur les nations. La Sainte Parole nous dit qu'ils ont été créés par lui et pour lui. Vous avez compris ce que ça veut dire. Le plan de Dieu, c'est que nous qui sommes membres du corps de Christ, que nous puissions occuper ces trônes, que nous puissions gouverner ces différentes régions géographiquement et spirituellement, séparées les uns des autres. Et quand, comme nous le voyons dans Die Offenbarung, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, quand Satan est précipité, cela veut dire littéralement que ces démons doivent être vaincus. Vaincus par quoi ? Par la prédication ? Non. Vaincus par la prière intensive et par le combat spirituel jusqu'à ce qu'ils soient impuissants pour contrôler les nations depuis ses trônes. Ceci arrivera avant le retour de Jésus sur la terre. Mais comment ? Et par qui ? À nouveau, le psaume 110 nous dit que les forces démoniaques seront maîtrisées par la verge de sa force venant de Sion. Avec cette verge, Sion dominera au milieu de ses ennemis. Nous collaborerons avec le Messie. Nous avons vu dans l'étude précédente quelle est cette verge. Il s'agit de la Sainte Parole, les commandements de Dieu confessés dans la prière d'autorité par Sion, c'est-à-dire par vous et moi. Qui est donc Sion? Eh bien voilà, ce sont ceux, vous et moi, qui se confient en l'Éternel, qui s'appuient sur lui et qui n'espèrent que en lui. Psaume 125, verset 1. Je répète, ce sont ceux qui se confient en l'Éternel et qui s'appuient sur lui et qui n'espèrent que en lui. Psaume 125, verset 1. Sion doit donc conquérir sa pleine autorité, non pas en étudiant des manuels de classe, de théologie, ni en prêchant seulement en chair, en faisant un sujet de prédication, ce qui n'est pas interdit, mais surtout dans notre lieu de prière, dans l'intercession. C'est là que nous affrontons les puissances démoniaques, que nous sommes sur l'offensive et que nous apprenons à les dominer. Que croyez-vous? J'ai des preuves, et j'en suis pas fier du tout, que de nombreux serviteurs de Dieu, mariés, parfois avec un ou deux enfants, commettent l'adultère, succombent à la chair. Ça ne vient pas automatiquement. Non, non, non. L'ennemi s'attaque beaucoup plus et plus violemment à ceux qui sont sauvés qu'à ceux qui lui appartiennent déjà. Pourquoi chicanerait-il ceux qui lui appartiennent? Je ne sais pas. C'est tout simple de comprendre cela. C'est très simple. Toutes les hordes de démons et de super-démons s'attaquent à ceux qui servent le Seigneur. Ne soyons pas naïfs et ignorants. Nous devons donc apprendre à dominer nos ennemis pendant qu'ils sont encore tout autour de nous. Après le retour de Jésus, ils seront tous liés pendant 1000 ans. Ça s'appelle le millénium. Ceux qui gouverneront et qui régneront avec Christ pendant le millénium doivent dès maintenant dominer avec efficacité les forces des ténèbres affluant sur la terre. C'est avec la sainte parole de Dieu que nous dominerons, et c'est précisément de cela que nous parle le psaume 149 qui nous dit tout cela clairement. Il est dit dans le psaume 149, verset 6 jusqu'au verset 9. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples, pour lier leurs rois de chaîne et leurs nobles de sceptre fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, cette gloire est pour tous ses saints. Louons l'Éternel. Psaume 149, versets 6 à 9. Donc l'épée à deux tranchants, c'est la sainte parole de Dieu, et elle est dans leurs mains. Elle se trouve dans vos mains. Pour quelle raison? Pour exécuter la vengeance contre les nations, pour lier leurs rois de chaîne, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Et notez bien ceci, tous les saints ont ce privilège. Nous pouvons prendre la sainte parole de Dieu, écrite pour nous, et contre Satan, Et avec cette vérité, nous pouvons le lier, lui et ses autorités, ses princes de ténèbres. Lorsque nous utilisons la sainte parole de Dieu dans la prière, confessons ce qui est écrit, nous lions les démons. Je répète, tous les saints, vous et moi, ont ce privilège. Nous pouvons donc prendre la sainte parole de Dieu écrite pour nous et nous pouvons l'utiliser contre Satan et avec cette vérité, nous pouvons le lier, lui et ses autorités, ses princes des ténèbres y compris. Et lorsque nous utilisons la sainte parole de Dieu dans la prière, confessant ce qui est écrit, là, nous lions les démons. Voici quelques-uns des jugements dont nous pouvons nous servir. Il est dit dans Saint Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. » Rien. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Il y a beaucoup d'autres jugements contre la puissance de Satan. Nous devons les exécuter et nous devons lier notre ennemi qui a été déjà jugé. Il a été trouvé, rappelez-vous, coupable et il a été condamné par Jésus-Christ. Pourquoi lui permettons-nous de continuer à nous opprimer, à détruire par ses terribles œuvres de ténèbres tout autour de nous? Jésus, il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Jésus, il est notre chef. Il a accompli une œuvre qui nous a libérés totalement du contrôle de Satan. Oui, Jésus est venu en tant qu'homme et c'est en tant qu'homme que notre Sauveur a écrasé Satan. Ce n'est pas pour lui-même qu'il a écrasé Satan. Il en avait toujours été le maître. Ce qu'il est venu faire dans ce monde, dans un corps d'homme, c'est pour nous, pour vous et pour moi, qu'il l'a fait. Et maintenant, nous, vous et moi, qui faisons partie de son corps, nous pouvons dominer Satan avec efficacité et nous pouvons le mettre sous nos pieds. Nous, le corps de Christ, nous sommes les pieds de Jésus-Christ. Mais si nous pouvons dominer, ce n'est que sur le fondement de la sainte parole écrite de Dieu. Il est indispensable que nous étudions cette sainte parole, que nous sachions ce qu'a fait Jésus pour nous. Munis de cette vérité de ce que Jésus a accompli pour nous, nous pouvons exécuter, nous pouvons accomplir les jugements qui sont écrits. À cause de cela, nous pouvons dire que nous pouvons lier les rois démoniaques, car il est dit, ils l'ont, au pluriel, vaincu. Ils l'ont vaincu, Satan, par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si je sais ce qu'a fait Jésus pour moi, et si je le crois vraiment, alors je ne supporterai plus l'oppression de l'ennemi. Je résiste contre Satan et je lui dis ce que a fait, ce que a vraiment fait le sang précieux versé à la croix pour moi. Alors que je confesse ce qui est écrit dans la Sainte Parole de Dieu à mon sujet et que je le revendique, alors cette Sainte Parole devient mon témoignage triomphant contre l'ennemi et contre toutes ses attaques. Nous sommes en train d'apprendre à dominer non pas des ennemis de chair et de sang, mais les vrais ennemis, qui sont les forces démoniaques. Et cela en confessant la Sainte Parole dans la prière et dans l'intercession. Les intercesseurs régneront sur cette terre avant le retour de Jésus, mais ce sera uniquement ceux qui sont réellement soumis, permettant ainsi à Jésus de régner à travers eux. Ceux-là même seront promis au trône avec Christ, parce que Jésus a totalement soumis sa volonté à celle de son Père. Il lui a été donné toute autorité. Et au fur et à mesure que nous sommes brisés et que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, il nous est permis d'être ces canaux par lesquels la puissance continue de couler. Je répète, et au fur et à mesure que nous sommes brisés, humiliés et soumis à la volonté de Dieu, il nous sera permis, il nous est permis d'être ces canaux par lesquels la puissance va continuer de couler. Mais le début se fait maintenant déjà. Il se fait maintenant dans notre situation présente. Il nous faut confesser la Sainte Parole sur ces problèmes qui nous harcèlent. L'autorité en Christ est le reflet de la foi, de la force et de la gloire. La Sainte Parole de Dieu nous dit que nous bénéficions du principe de la foi pour la foi, selon Romains chapitre 1, verset 17. Nous marchons donc de force en force, selon Psaume 84, verset 7, et nous sommes transformés de gloire en gloire, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc tous, nous devons grandir dans l'autorité. Elle ne se développe que lorsque nous nous en servons. C'est dans notre lieu de prière qu'elle fait ses preuves, car c'est là que notre autorité est déployée et mesurée exactement. Avons-nous vraiment de l'autorité? Ou est-ce simplement des mots absolument vains qui ne veulent rien dire? Dans la chambre de prière, cela se découvrira rapidement. Revenons un peu au verset 3 du psaume 110. Là, nous voyons encore un message qui nous est adressé à ce sujet. Il est dit « Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. » Que signifie « au jour de ta puissance » Jésus a-t-il été sans puissance? Non, absolument pas. Mais Jésus ne régnera sur la terre que lorsqu'il pourra régner au moyen d'un peuple bien disposé qui est son corps. Et ceci montre que nous avons intérêt à devenir disponibles. Plus nous perdons de temps et moins nous sommes disposés à payer le prix d'un engagement sans réserve, plus ce sera difficile d'avoir une autorité réelle. Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'un peuple bien disposé et entièrement soumis à sa personne? Pourquoi? La réponse se trouve dans le fait que Dieu a donné la terre à l'homme. Notez le psaume 115, verset 16. Et c'est pourquoi il ne peut agir que en réponse à la prière. La prière donne à Dieu un droit d'entrée dans les affaires de la terre. Il doit avoir légalement ce droit d'entrée par le moyen d'un peuple bien disposé et disponible. Dieu soumettra tous nos ennemis, mais il le fera par des vases de chair et de sang, des vases intercesseurs, des vases brisés et humbles. Dieu cherche donc un homme, une femme. Il a besoin d'hommes et de femmes. L'état des choses au milieu des nations démontre très clairement qu'il cherche, mais ne trouve pas les ouvriers nécessaires. Lorsque l'oppression et la corruption affligent le pauvre, Dieu cherche un homme, une femme, pour intercéder devant lui. Il est dit dans Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31, « Et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tient à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai point trouvé. Et je verserai sur eux mon indignation, et cela dans le feu de ma colère, je les consumerai. Je ferai retomber leur roi sur leur tête. » C'est ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31. Rappelez-vous, malgré que la science prétend que ce sont que de la mythologie ou du virtuel, non, non, non. Dieu avait cherché 10 hommes, souvenez-vous, 10 hommes seulement, sur des millions. Ça se trouve dans la Genèse, chapitre 18. Et pour eux, pour ces 10 hommes, il aurait épargné des millions d'êtres humains. Il aurait épargné Sodome et Gomorre. Mais ne les trouvant pas, eh bien, sa colère fut déversée sur ces villes. La brèche, c'est la distance entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Sa justice doit être accomplie parfaitement. Dieu est juste. Que croyez-vous, aujourd'hui, dans nos pays d'Europe, mais ailleurs également? Tous les jours, il y a, dans chaque pays, une moyenne de 15 à 20 meurtres tous les jours. Je dis tous les jours. Il y a des sadiques qui détournent des petits-enfants. J'ai dit même des petits-enfants. Croyez-le ou pas, mais c'est épouvantable. Alors sa justice doit être accomplie parfaitement, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Ceux qui pêchent, ceux-là doivent mourir. La miséricorde de Dieu, c'est que Jésus a pris à son compte le prix de notre péché et qu'il l'a entièrement payé. Mais la plupart des hommes méchants ne savent rien de la miséricorde de Dieu ni de sa justice. Dieu a donc besoin d'un homme, d'une femme qui se tiennent devant lui, comblant ainsi le vide entre sa miséricorde et sa justice. Dieu est juste. Vous savez, Dieu n'est pas un papa gâteau, un Père Noël, qui donne que des cadeaux, qui pardonne tout, tellement qu'il est bon, le bon Dieu. S'il vous plaît, faites attention. Ça ne rigole pas. Quand il n'y a personne, aucun intercesseur, la destruction passe librement par la brèche. Une brèche, c'est un trou dans une haie. Le péché fait cette brèche aussi bien sur les nations que sur les individus. À cause de l'iniquité d'un pays, ces princes sont nombreux, mais par un homme intelligent qui a de la connaissance, la stabilité va se prolonger. Proverbe chapitre 28, verset 2. À cause des nombreuses transgressions, les princes démoniaques s'assemblent et se groupent sur les pays. Plus le peuple de Dieu tardera à se lever pour dominer le mal, plus il sera difficile de le dominer, car le mal continuera de s'accroître. Je répète, plus le peuple de Dieu tardera à se lever pour dominer le mal, plus il sera difficile de le dominer, car le mal continuera de s'accroître. Pendant la deuxième décennie de ce siècle, il y avait une telle force spirituelle, par exemple dans certaines villes comme New York, que lorsque un certain gourou hindou, particulièrement très puissant, avait visité certaines de ces villes, eh bien, ces gourous-là ont perdu tous leurs dons occultes. Pourquoi? Car les puissants démons, ils agissent au travers de ces gourous, et ces puissants démons ont été paralysés par le champ de la force divine qui régnait sur ces villes, des intercesseurs qui continuent de prier. Comparez cela avec les villes de nos jours. Il y a des gourous en pleine activité dans nos villes. Leur puissance et leurs dons convainquent des multitudes à les suivre. Des princes démoniaques se rassemblent dans les lieux célestes, et cela à cause du déferlement du mal et du péché. Plus en tant qu'Église, nous détournerons les yeux en tant qu'Église, plus nous ferons des compromis pour pouvoir coexister avec les puissances ténébreuses dans nos pays, plus le prix sera élevé pour les expulser. De plus, le mal que nous tolérons ne reste jamais sans importance et facile à contrôler. Bien au contraire, il prolifère jusqu'à ce qu'il nous détruise. Ça, c'est une loi spirituelle que nous voyons d'ailleurs au cours de l'histoire d'Israël. Ils avaient reçu l'ordre de chasser tous leurs ennemis et même de les tuer. Mais ils ont totalement désobéi. Alors il y a eu plusieurs raisons à cela. Bien sûr, on comprend, ils étaient fatigués et ils désiraient une vie stable qui leur permettrait de proliférer du bien-être déjà acquis et surtout d'en profiter. Mais voilà, les ennemis à qui ils ont permis de demeurer en petits groupes, par-ci et par-là, ces ennemis ne sont pas restés petits et faibles. Ils se sont levés contre Israël et l'ont conduit à l'asservissement. Ils ne détruisent point les peuples comme l'Éternel leur avait dit, mais ils se sont mêlés parmi les nations et ils ont appris leurs œuvres et ils ont appris à servir leurs idoles et elles leur furent un piège. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple, et on le comprend, et il abhorra son héritage, et il les a livrés dans la main des nations, et ceux qui les haïssaient ont dominé sur eux. Et leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leurs mains. Psaume 106, versets 34 à 36, et le verset 40 à 42 du psaume 106. Voyez-vous, quand nous ne soumettons pas nos ennemis, nous finissons par leur être soumis. C'est vrai pour notre vie spirituelle personnelle, et c'est vrai aussi pour les nations. Selon des statistiques et des études très pointues, nos pays européens risquent, dans 2 ou 3 ans, d'avoir un afflux de fuyards, de ceux qui demanderont l'asile. Il paraît qu'ils seront au nombre de 200 millions. Vous tombez des nues en entendant ce chiffre, mais cela a été calculé soigneusement par des experts qui n'ont rien à faire avec la religion et qui ont établi que des hordes incroyables viendront parce qu'il y aura la sécheresse, plus d'eau, plus de nourriture. Ce sera affreux. Nous serons submergés. Et croyez-moi, nous Européens, nous allons souffrir comme jamais nous avons souffert. Chers amis à l'écoute, il y a des pays qui ont une longue tradition de torture. S'il s'agissait d'un prisonnier important, vous savez comment on le tuait? En perçant son front avec un très long couteau pointu jusqu'à traverser sa tête de l'autre côté, que l'on tournait ensuite dans la tête. Eh bien, toutes ces choses sont démoniaques et c'est les démons qui infiltrent les humains pour les posséder. Il y a la preuve chaque jour dans chaque pays d'Europe qu'il y a, je l'ai déjà mentionné, une dizaine de meurtres par jour. Or, il y a 20 ans, cela n'existait que rarement. Oui, il y a des choses terribles. La solution reste toujours la même. Les croyants doivent se lever, utiliser l'autorité qui leur est donnée par Dieu, utiliser l'autorité qui vous est donnée. N'oubliez jamais cela. C'est là le principe du règne spirituel. Si nous omettons de soumettre nos ennemis quand ils sont petits, ils ne resteront pas petits longtemps. Ils vont croître, grandir, et ils vont se multiplier, et nous serons rapidement envahis. Mais pour nous libérer, il faudra finalement se lever pour dominer. Que Dieu nous vienne en aide, à nous, l'Église de Christ. Réveillez-vous et prenez possession contre l'avortement, contre tous ces crimes inutiles, contre l'homosexualité, contre la perversion sexuelle, contre les agressions contre nature envers des petits-enfants. Tous ces démons qui rôdent dans nos pays nous ont déjà envahis. Chers amis, nous devons apprendre, premièrement, à mieux connaître Dieu. Dieu a besoin de nos bouches, car c'est par la bouche de l'homme que Dieu déclenche sa puissance vers la terre. L'ordonnance, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la parole confessée de notre bouche, libérant puissamment la volonté de Dieu sur la terre. Comment pouvons-nous faire en sorte que Dieu se servent de nous dans l'exécution de ces ordonnances? C'est ce que nous pourrions nous demander si nous réfléchissons un peu. La réponse, elle se trouve dans Job chapitre 22, où il est question du protocole divin qu'il est nécessaire de respecter afin de créer des ordonnances. Réconcilie-toi avec lui, avec Dieu, je te prie, et sois en paix. Ainsi le bonheur t'arrivera. Reçois l'instruction de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Job 22, versets 21 et 22. Dieu cherche des hommes et des femmes qui désirent le connaître. Le prophète Daniel a dit, « Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. » Et dans la version allemande, il est dit, « sera fort et fera des exploits. » Daniel chapitre 11, verset 32. La première démarche à faire, si l'on veut être puissamment utilisé par lui, c'est d'apprendre à le connaître. Le résultat de cette connaissance, c'est la paix intérieure. Deuxièmement, la sainte parole de Dieu doit habiter nos cœurs. Oui, la sainte parole de Dieu doit nous être enseignée pour être emmagasinée, pour être cachée au plus profond de nos cœurs et de notre esprit. Il est dit dans Job, chapitre 22, versets 23 à 28, « si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente et que tu mettes l'or avec la poussière, et l'or d'Ophir parmi les cailloux et les torrents, le Tout-Puissant sera ton or, et il sera pour toi de l'argent amassé, car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et vers Dieu tu élèveras ta face, tu le supplieras, et il t'attendra, il t'entendra, et tu acquitteras les vœux, car il te répondra et il exaucera tes prières. Tu décideras ou tu décréteras une chose, et voici, elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. Job 22, versets 23 et 28, selon une version allemande. Les personnes dont les décisions sont divinement ordonnées et établies sur terre, ce sont celles qui ont commencé au commencement. Elles ont appris à connaître Dieu. Premièrement, nous devons entrer en sa présence. Deuxièmement, notre esprit doit s'enflammer par la louange et par l'adoration. Troisièmement, nous devons entendre ses directives pour chaque situation en particulier. Et il nous montrera toujours le verset correspondant aux besoins du moment. Mais nous devons le louer jusqu'à ce que nous puissions recevoir cette sainte parole de sa part. Et quatrièmement, ensuite, nous devons confesser cette sainte parole de notre bouche. L'Esprit de Dieu consolide ensuite ces paroles qui sont confessées. La puissance de l'Esprit, elle est mise en action par nos voix. L'aide que nous apportent les anges l'est également, comme nous l'avons vu dans diverses études. Les anges sont très, très importants. Et troisièmement, pour terminer, nous devons être inspirés par l'Esprit de Dieu. Proclamer de telles ordonnances ou de tels décrets, cela est une façon importante par laquelle la Vierge de sa force sort de Sion. Un autre facteur important est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et que ce soit sous son inspiration que nous puissions parler. Notez Ésaïe, chapitre 11, verset 4, où il est dit « Par les souffles de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Or, nous avons le privilège d'être les instruments par lesquels le souffle de Dieu agit ici, sur la terre. Nous devrions user de ce privilège, permettant ainsi à Dieu d'œuvrer puissamment au travers de nous pendant les moments de prière dans le secret de sa présence. Les ordonnances divines doivent être proclamées sous l'onction de l'Esprit Saint de Dieu, et ce sont donc ces décrets qui sont inspirés par lui, quoique prononcé par notre intermédiaire. Les ordonnances sont établies et ne feront pas défaut. Parfois, il nous faut attendre avant d'en voir la manifestation, mais ils ne manqueront pas de s'accomplir. Croyez-le fermement. Et maintenant, terminons par la prière. Prions. Père céleste, toi qui as envoyé dans ce monde livré au péché, Jésus notre Sauveur, remplis-nous aussi, nous t'en prions, de cet amour dont Jésus a aimé les siens jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, tandis que le complot se trame et que les mailles du filet de l'oiseleur se resserrent autour du Fils de l'homme, nous voulons nous consacrer à toi plus que jamais. Accorde-nous de marcher parmi les hommes comme tes messagers, comme tes guerriers, tes parfaits chevaliers, les ministres qui sont choisis pour ton service, n'existant que pour vivre ta vie dans ce monde et pour livrer tes batailles, pour t'aimer, pour travailler avec toi et pour mourir même pour toi. Prends-nous aujourd'hui, oui Seigneur, et sers-toi de nous selon ta sainte volonté en faveur de ton éternel royaume. Amen. Amen. Et merci, chers amis, de l'intérêt que vous portez à ces études. Et pardonnez-moi que ma voix est un peu faible. Je viens d'être opéré de la cataracte. J'étais presque aveugle de l'œil gauche. Et je fais cette étude en voyant encore assez trouble, mais j'ai demandé que le Saint-Esprit m'assiste et me conduise jusqu'au bout de cette étude. Soyez bénis et Dieu voulant, à demain matin, et ça ira déjà mieux. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est mon désir de tout cœur. Au revoir.